Messieurs les commissaires, premier sujet ce matin, on va parler de la DPJ. Est-ce qu'il y a des quotas qui ont été imposés aux travailleurs, donc qui ont le mandat d'évaluer la situation des enfants?
Ben, là, j'écoutais Katia Gagnon, c'était vendredi, je pense, ici. Oui. Et puis j'ai lu ses articles, c'est très bien fait, c'est très bien documenté. Écoute, on se retrouve, est-ce qu'il y a des quotas? Tu sens bien que personne ne veut prononcer ce mot-là, mais que c'est la réalité. Puis il faut comprendre quelle est cette réalité-là, parce que c'est assez intéressant quand on lit comme il faut les papiers. Il y a deux sections dans la DPJ. Il y a une section qui est l'évaluation-orientation, c'est-à-dire on signale le cas, un cas de maltraitance X. Cet enfant-là, il est signalé à la DPJ. La DPJ reçoit le cas si elle juge que c'est suffisamment sérieux. Et ensuite, il va y avoir, pendant une semaine, ce que je comprend, quelqu'un qui est un travailleur social diplômé, qui va évaluer si le cas de cet enfant-là présente des risques qui compromettent sa sécurité et son bien-être, en quelque sorte. Et cette mesure-là de l'évaluation, le diagnostic de ce cas-là, c'est ce qui relève du travail, de la moitié du travail en DPJ. L'autre partie étant que si jamais l'enfant est jugé dans un état qui est nécessite une intervention, à ce moment-là, il y a une autre partie qui va s'occuper de trouver des mesures concrètes pour changer la situation, pour pas que l'enfant demeure dans une situation inconfortable. Alors, le nombre de signalements augmente. Le nombre de personnes qui ont à faire ces diagnostics-là n'augmente pas pour toutes sortes de raisons, en particulier parce que c'est difficile de trouver. Forcément, le taux de cas dont tu dois t'occuper augmente. Alors, est-ce que ça amène à créer des quotas? C'est sûr que selon que tu es un travailleur, tu dis il y a des quotas. Selon que tu es un cadre, tu dis il y a des attentes, il y a des objectifs. On est là-dedans pour moi.
Moi, j'ai l'impression d'entendre les cadres de police au Québec nous dire « Ben non, il n'y a pas de quotas de tickets. » Ben voyons donc, monsieur le journaliste, des quotas chez nous? Ouais. Jamais! Ouais. Tous les cadres de police ont dit ça à un moment donné ou à un autre. Mais là, tu parles à des policiers en dessous de la couverte qui te disent à Montréal, par exemple, certaines unités, le quota, c'est 17 tickets par jour. Là, je dis après ça, tu peux appeler ça des objectifs de performance, tu peux appeler ça des cibles, appelle ça comme tu veux, c'est un quota. Et là, je lisais le reportage de Katia Gagnon et le système réagit en services sociaux un peu comme la police réagit, c'est-à-dire qu'on nous dit « Non, non, c'est pas des quotas, c'est des réunions là où on présente le nombre de dossiers ouverts par chacun des intervenants de l'équipe comme des sources de motivation. » Mais non, mais écoute, c'est un quota. Et Pierre le disait, le nombre de signalements augmente. Katia parlait, je pense, je pense qu'il y a 10%, 15%, quelque chose comme ça. Ce qui est une bonne nouvelle, parce que ce que ça veut dire, c'est que tu as de plus en plus de monde qui se soucie du petit voisin et de la petite voisine et qui signale à DPJ. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais, je veux dire, le nombre d'intervenants doit suivre. C'est un peu la même chose ailleurs dans le système. En santé, on l'a vu, tu as fait une entrevue tantôt avec les infirmières. On a de la misère à recruter. Et il y a un alourdissement des besoins, il y a un alourdissement du nombre de gens dont on doit s'occuper, bien, il faut que les effectifs suivent. C'est un peu partout dans le système. Mais le système, je le rappelle, là, vous voyez juste comment ça se passe dans les commissions scolaires, le système, là, je pense que c'est humain, cherche d'abord à se protéger. That's it. Fait que c'est sûr qu'on va dire, écoutez, ça ne représente qu'une vision partielle de la réalité.
Mais c'est vrai que c'est pas simple. C'est moi, ça. J'ai joué pas mal dans ça, la DPJ, puis écoute, là, moi, je te dirais, tu fais face à des cas de misère, tu as des chocs culturels, puis je vais donner l'exemple, là, je me souviens, c'est une jeune travailleuse fraîchement diplômée, là, motivée, s'en va travailler pour la DPJ, OK? Elle avait jamais mis les pieds de sa vie dans un quartier défavorisé, avait jamais vu une famille en arracher. Tu rentres là-dedans, là, c'est un choc de valeur. T'as jamais vu ça. Puis là, c'est un dossier, puis c'est un autre, puis t'as une responsabilité. Je le retire-tu? Si je recommande qu'on le retire, il s'en va où, cet enfant-là? Qui va s'en occuper? Oui. Est-ce que je suis mieux de donner des mesures? Oui. Hey, c'est des choix, là, qui sont...
Moi, c'est pas facile.
Non.
Oui. Moi, j'ai une admiration sans...
Et il y a les deux, là. Il y a des gens pour qui on doit avoir une admiration, puis il y en a d'autres qui font un power trip, puis qui t'expliquent que toi, ta vie, là, j'ai un contrôle, puis si je veux t'enlever ton enfant, on va te l'enlever.
Moi, je pense que ça doit être la minorité dans ces milieux-là.
Je pense que oui, mais ça existe.
Puis aussi, le problème, c'est... Mais là où tu touches le point sensible...
C'est le roulement.
C'est ça. Puis c'est comment tu évalues, parce que moi, je suis gestionnaire d'un certain nombre de travailleurs qui ont un nombre de cas qui débordent. C'est sûr que je vais avoir tendance à dire, écoutez, faites votre travail le mieux, mais il faut qu'on augmente la cadence un peu, là. Puis il faut que la cadence soit respectée par un peu tout le monde. Tu sais, il faut que tu cherches une façon intelligente d'appliquer des critères objectifs pour que tu sois sûr que toute ton équipe travaille au maximum. Est-ce que c'est trop? Comme dans le cas des infirmières, comme c'est dans le cas dans plein de services sociaux, c'est clair qu'on est confronté toujours à la même réalité, une absence de travailleurs suffisantes pour répondre à une demande qui s'accroît. Puis moi, je regarde toutes ces questions-là, je me dis, crime, c'est où la solution? J'avoue que...
La solution, là, je pense, c'est plate, là, puis je veux pas causer de sortie de route, là, mais c'est de financer adéquatement les services
mais
publics.
Mais c'est pas une question de finance, disent les patrons dans ce milieu-là.
Moi, ce que je constate, c'est que tu as un accroissement des besoins un peu partout. Et tu as une pression politique aussi pour couper les coûts partout. Limiter les embauches, etc. On l'a vu, limiter les dépenses de programme. C'était pas des compressions, c'était de l'austérité. Mais quand tu parles de programmes qui coûtent des milliards, par exemple en éducation, si tu ralentis les dépenses, ben tu fais des coupures. C'est ça que c'est. Et à un moment donné, quand je disais tantôt que le système se protège, si le système maquille des dossiers, puis qu'aux yeux du système, la job a été faite, bien, la job est faite. Mais sur le plancher des vaches, tu as des enfants qui n'ont pas de service d'orthopédagogue. Tu as des infirmières qui sont débordées puis qui vont aller en burn-out. Tu as des infirmières qui sont obligées de faire du temps supplémentaire obligatoire. Et là, on le voit à DPJ, la pression de faire du chiffre, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'il y a des dossiers qui sont probablement fermés alors qu'ils ne devraient pas l'être. Ça, c'est tragique. L'enquête montrait que tu as des cas de resignalement. C'est-à-dire qu'on avait fermé un dossier, puis whoop! Il y a un nouveau signalement qui est fait à propos du même enfant. Mais comment ça fait que ça n'a pas été bien fait la première fois? Ça se peut-tu que la pression du chiffre fait en sorte qu'il y a des éducateurs, des intervenants, des intervenantes qui vont se dire, regarde, j'ai pas beaucoup de temps consacré à ça, parce que si j'en consacre beaucoup de temps, ben au prochain meeting, on va me dire que je ferme moins de dossiers que Robert. Puis j'ai pas envie de me faire dire ça.
On joue avec la vie des gens, donc, et l'avenir des enfants. Moi, je pense
mais tu sais,
que...
sortir un enfant de son milieu, là, je parle pas d'enfants là, qui sont en danger imminent de blessures ou pour qui le développement est perturbé, là, tu sais. Mais tu sais, c'est pas une décision facile à prendre.
Tu sais, moi, je me souviens.
Je me souviens d'un cas d'un enfant, là. Écoute, lui, sa mère partait le soir pour prendre un coup. Mm. OK? Puis il restait tout seul, puis il avait quoi, là? Je te dis ça de mémoire, il devait avoir 7 ans. OK? Puis un soir, puis il était débrouillard, le petit tabarouette. Il a pris le téléphone, puis il a fait le 911. Puis ils sont venus le chercher. Wow. Mm-hmm. OK? Puis ça, c'est le premier volet. Puis le deuxième volet, une fois que tu le retires, puis que tu le confies à quelqu'un d'autre, une famille d'accueil...
Faut que tu suives le cas, là.
C'est quoi le lien entre la mère naturelle puis l'enfant? Puis tu veux pas couper les liens comme ça, là, à moins que... Puis l'autre réalité, là... chargeant des familles d'accueil aujourd'hui.
Mm-hmm. Ouais.
Mais Paul, d'autres
raisons. C'est un paquet de problèmes comme ça là, auxquels ils sont confrontés.
Raison de plus pour que les intervenants ne soient pas sous pression de faire du chiffre. Raison de plus pour qu'ils aient du temps pour bien évaluer tous les tenants et aboutissants.
Ah, il n'y a aucun doute.
Et là, ce que l'enquête montre, c'est que dans certains endroits, c'est pas ça.
Il n'y a aucun doute que tu peux pas sacrifier la qualité au nombre dans ce cas-là, parce que c'est la vie de jeunes enfants, puis probablement tout le reste de leur vie va être axé sur ces décisions-là. Moi, je pense qu'en tout cas, il y a des solutions, elles sont malheureusement, je les vois pas à court terme, mais je pense qu'il y en a une qui est une formation accélérée. Puis derrière cette formation-là, il y a aussi l'espèce de changement auquel on est confronté partout. Comment on fait pour s'occuper réellement du monde, des gens, donc satisfaire vraiment et modifier vraiment l'état de vie de bien des gens qui ont besoin d'avoir des changements? Comment on fait ça, ce changement-là profond de culture empathique de l'État?
Un État qui a du cœur.
Eh oui, ouais.
Au retour. Caroline Néron, à Tout le monde en parle, a tenté d'expliquer sa situation. On verra si on a compris. 25, secteur de Terrebonne.